La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, quelle diversité culturelle sur les scènes européennes ? Voilà une question large, une question centrale, c'est celle qu'on se pose aujourd'hui dans la danse des mots, parce que c'est celle que s'est posée dans son dernier numéro, une belle revue théâtrale qui s'appelle Alternative Théâtrale, une revue qui paraît 4 fois par an. Le dernier numéro, c'est le 133, il date de novembre 2017, et au cœur donc de ce numéro, cette problématique sur la diversité, avec une revue qui est co-dirigée pour ce numéro par Martial Poisson, qui est avec nous dans la danse des mots, et Sylvie Martin-Lamani. Bonjour Martial Poisson.
Bonjour.
Merci bien de venir avec votre revue sous le bras, sous l'un de vos bras et sous l'autre. Cette question, quelle diversité culturelle ? Alors évidemment, la première question qu'on peut se poser, c'est une question sur le mot de diversité, dont vous dites de façon très précise qu'en fait, c'est l'un des mots qui peut désigner un concept à deux faces, dont l'une peut se nommer diversité et l'autre discrimination. Alors, est-ce qu'il s'agit de la même chose qui regarde d'un côté ou de l'autre ? Est-ce que c'est un concept Janus qui, selon qu'on le regarde de façon positive ou négative, va être nommé diversité ou discrimination ?
Tout à fait, c'est absolument l'intérêt de ce mot, c'est-à-dire que il peut à la fois prendre un sens courant et renvoyer à une conception finalement assez ancienne de ce qu'on pourrait qualifier comme du relativisme culturel, hein, c'est-à-dire toutes les cultures se valent, sont mises sur un plan d'égalité et peuvent apparaître à un moment ou à un autre dans l'espace public en fonction des logiques des différents acteurs qui les portent, et donc dans ce sens-là elle prend un sens plutôt positif d'affirmation d'un certain nombre de valeurs ou dans ce cas précis d'un certain nombre d'esthétiques. Mais d'un autre côté, elle prend une valeur polémique, voire franchement critique, dès lors qu'elle désigne ce qu'on peut appeler aujourd'hui des cultures minorées ou minoritaires, c'est-à-dire des cultures qui sont reléguées dans des espaces du corps social considérés comme moins légitimes, en tout cas moins légitimes au regard des institutions qui ont à cœur en permanence d'essayer de définir un cadre, si possible, universel ou cohérent pour ces politiques. Et donc c'est un terme qui, dans le vocabulaire des institutions culturelles, naît aux environs de 2001 dans le cadre de la conférence des ministres de la culture de Cotonou, où, je cite, est affirmé que la diversité constitue l'un des défis majeurs du 21e siècle. Le concept est ensuite repris par l'UNESCO dans différents sommets, donne lieu à une charte pour la promotion de la diversité culturelle et devient le fer de lance d'une politique d'affirmation d'un certain nombre de cultures, soit considérées comme menacées au regard de l'histoire, hein, des conceptions patrimoniales de la culture, soit considérées comme invisibles à l'intérieur des institutions culturelles dominantes. Et c'est la question qu'on a voulu se poser avec Sylvie Martin-Lamani dans le cadre de ce numéro, en se demandant finalement sur un média tel que le théâtre ou plus largement les arts du spectacle, qui comprennent aussi bien la danse que la musique, toutes sortes de genres musicaux d'ailleurs, pourquoi finalement à l'intérieur d'un espace culturel qui est soucieux justement de promouvoir la diversité des esthétiques, eh bien on assistait de fait, sinon de droit, à une très forte homogénéité dans propositions artistiques qui sont faites. Le théâtre français et plus largement européen sans doute, avec évidemment des variantes d'un pays à l'autre. Une des variantes étant d'ailleurs au cœur du numéro, puisque la revue Alternative Théâtrale est une revue franco-belge. Donc la construction de la question de la diversité dans les deux pays ne prend pas du tout la même tonalité. C'est une des questions qu'on a essayé d'aborder. Mais en tout cas, sur beaucoup de scènes européennes, on constate que même si la diversité fait partie intégrante d'un discours programmatique, eh bien dans la pratique, si on regarde le détail des programmations des théâtres, on a une très forte homogénéité.
Encore un mot sur ce terme justement de diversité, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que on peut penser que c'est un euphémisme, c'est-à-dire que c'est un arbre qui cache la forêt, c'est quelque chose qui essaye de nommer et en nommant essaye justement de se dédouaner d'une certaine culpabilité. Comment on peut l'utiliser ce terme ? Quel est le danger du terme ? Quels en sont ses points négatifs et puis peut-être les points positifs qu'il permettent ?
Oui, alors c'est exactement le problème qui s'est posé, à tel point qu'on a eu beaucoup de mal à nommer ce numéro, hein, qui a pris, ça a été 2 ans et demi de travail, on a très tardivement assumé finalement de reprendre ce terme aussi imparfait qu'il puisse être. C'est un terme qui a été en partie au moins galvaudé par l'institution, qui est devenu finalement le poste avancé de ce qu'on appelait avant politique de la démocratisation de la culture, politique d'affirmation des esthétiques singulières. Donc c'est un terme qui effectivement...
Alors on voit qu'on marche sur des œufs à tous les coups, hein, parce qu'on cherche à les esthétiques singulières, on voit que là on s'est pris la tête pour en arriver à une formulation pareille. Et on peut comprendre pourquoi. Mais le problème, c'est justement que se prendre la tête, ça résout pas le problème. Se prendre la tête pour trouver un slogan, pour trouver une expression, ça sert au pire à déculpabiliser celui qui emploie l'expression, qui dit voyez comme je suis malin, voyez comme justement je ne vais pas être suspect d'être complice de telle aliénation, etc., puisque je fais attention à mon vocabulaire. Bah, ça résout pas le fond du problème.
Absolument, c'est un mot symptôme, donc il a été utilisé pour rendre compte d'une sorte de contradiction permanente entre à la fois le déclaratif, et d'ailleurs le pouvoir politique en donne l'exemple. Maintenant, on parle de ministre issu de la diversité, donc on voit bien que ce mot remplace...
Oui, c'est affreux, vous rendez compte du nombre de syllabes issu de la diversité, ou pour pas dire quoi, bah, on sait pas trop. Parce que c'est vrai que après, si on les nomme différemment, on va nommer ces populations, mais de façon négative. En gros, non blanche. Voilà.
Tout à fait. Donc, on évite ainsi des expressions plus stigmatisantes, qui sont beaucoup plus courantes dans le monde anglo-saxon, d'ailleurs, hein, où on parle de blanc, de non-blanc, de blanchité, de blanchitude. Ce débat, d'ailleurs, a occasionné la naissance de beaucoup de néologismes. Il suffit de voir la façon dont le collectif Décoloniser les Arts, né en 2014, à l'issue des représentations tumultueuses d'Exhibit B, qui était un spectacle, justement, qui voulait porter dans l'espace public cette question des corps noirs et de la façon de raconter d'autres histoires dans un contexte post colonial, l'affirmation de ce collectif a commencé par la mise en ligne d'un vocabulaire où on parlait de culture minorée, où on parlait de blanchitude, qui a fait l'occasion d'une polémique récente d'ailleurs avec un ministre.
Le suffixe itude, depuis la bravitude, il est suspect. De toute façon, il fait ricaner.
Voilà, tout à fait. Mais ils ont ces termes, pour aussi imparfaits qu'ils soient, ont le mérite de rendre compte de rapports de force qui s'expriment à l'intérieur de la langue.
C'est-à-dire
que nommer, c'est en quelque sorte faire exister ou au contraire dénier l'existence d'un certain nombre de populations.
On voit le malaise parce que vous citez vous-même un certain nombre de termes à propos justement de ces populations qu'on va appeler comment ? Racialisées, racisées, indigènes, minorées, visibles, invisibles. Avec cette dernière paire, on voit bien devant quelle contradiction on est mis, puisque on peut tout à la fois qualifier de visibles ou d'invisibles ces minorités dont on trouve justement qu'elles n'ont pas la place qu'elles devraient avoir, qui correspondent en tout cas à leur place réelle dans la société.
Absolument. Le problème étant que faire exister ces populations dans l'espace public, puisque le spectacle vivant offre finalement un espace public, une sorte de tribune ou de forum, si on veut revenir à des conceptions plus anciennes, est à la fois essayer d'en assurer la promotion, peut-être corriger certaines erreurs de l'histoire, notamment les faits de certaines époques où ces populations étaient délibérément maintenues sous le boisseau. Et en même temps, c'est aussi les fragiliser, puisque ça peut être considéré comme une forme d'exhibition. Autrement dit, la question de savoir quels sont les leviers pour promouvoir, gardons le terme sous bénéfice d'inventaire, la diversité culturelle, pose un autre problème qui est de savoir si en renversant ces logiques de stigmatisation, on ne crée pas en quelque sorte une stigmatisation au second degré.
c'est Vincent Touchard qui nous ramène à notre question centrale. Quelle diversité culturelle au théâtre sur les scènes européennes? Martial Poirson, vous avez donc co-dirigé ce numéro de la revue alternative théâtrale avec Sylvie Martin-Lamani. On s'est beaucoup attardé sur les termes, mais c'est vrai que la vocation de l'émission nous y porte. Ça pose des problèmes de fond. D'abord, est-ce qu'il y a vraiment, disons, une crise des figures de ce que c'est que l'autre, que l'altérité sur les scènes théâtrales? Est-ce qu'on voit justement projeté sur la scène du théâtre des problèmes, des crises, qui sont les problèmes et les crises de notre société? Et est-ce qu'on les voit proportionnellement à ce que c'est dans la réalité, à ce qu'on imagine que ce que c'est, parce que c'est jamais exactement, hein. Mais quel est le rapport?
Alors, le problème du théâtre, c'est que c'est un art de la représentation. Représentation au sens esthétique, mais également au sens politique. Autrement dit, on attend de nos scènes, espace public par excellence, qu'elles soient le reflet de la diversité de la société qui les entoure. Or, on constate que dans une population française qui est extrêmement métissée, qui est extrêmement mélangée et de longue date, qui est un vieux pays d'immigration, ce qui en fait toute la richesse en fait, hein, qui, d'après la dernière enquête, partiellement controversée mais assez sérieuse, considère que au moins 30% de la population française est non blanche, terme un peu problématique mais qu'on garde faute de mieux, on constate que les scènes françaises sont très loin de cette diversité, qui a été évaluée à peu près à entre 8 et 10%. Autrement dit, on a un hiatus entre la population française et le média qui est censé la représenter.
Mais alors, quand vous dites les scènes françaises, de quoi parlez-vous? Est-ce que vous parlez des comédiens et des comédiennes qui sont sur scène, ou est-ce que vous parlez des sujets qui sont abordés? Ou bien des deux?
Alors, des deux, voire davantage. C'est-à-dire qu'on parle à la fois de la diversité des comédiens porteurs de personnages. Le théâtre français est un théâtre qui propose finalement assez peu de personnages étrangers, ou alors des personnages d'origine étrangère en situation caricaturale. Donc ça, c'est un problème, hein. On a des rôles extrêmement typés qui font qu'aujourd'hui, pour un comédien algérien, pour un comédien africain, il est extrêmement difficile de trouver un rôle où on ne lui demande pas de surjouer un accent, une tessiture de voix, une caractéristique qui renvoie à de très vieux stéréotypes, en général, issus de la période coloniale. Donc le premier problème, c'est la diversité, effectivement, des populations qui composent cette scène.
Il faut voir si, justement, quand il y a un Africain sur une scène, est-ce qu'il joue l'Africain ou bien est-ce qu'il joue le personnage? Si c'est l'Asiatique, c'est pareil. Alors, ça pose un problème, bien entendu, par rapport à tout le patrimoine théâtral. Quand on monte l'Avare, est-ce que ça pose un problème d'avoir une Marianne, un Dorante ou un Harpagon qui soit noir ou pas?
Alors, on est dans un paradoxe permanent, puisqu'à la fois, au XXe siècle, le personnage et le comédien ne coïncident plus, ce qui a pu être le cas à d'autres époques de l'histoire du théâtre. Donc, on reconnaît que le personnage est une identité de convention qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément au comédien qui l'incarne.
Oui, on devrait y être plus habitué, parce que très souvent, il y a eu quand même des théâtres de masques. Et le masque, ça sert bien à ça, quand même.
Absolument. Et chez Shakespeare, les hommes jouent les femmes. Donc, en fait, il y a une très longue habitude de ce décalage entre le comédien et son incarnation. Aujourd'hui, on demanderait au comédien d'être l'incarnation de son personnage, ce qui conduit à superposer son identité personnelle et sa biographie avec celle du personnage dont il est porteur.
Je pense que le cinéma a une responsabilité là-dedans. Parce que au cinéma, on n'est pas masqué. On est maquillé, mais on n'est pas masqué, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas de marionnette, il n'y a pas l'acteur et le personnage ont un rapport beaucoup plus ambigu, ce qui a certainement porter des problèmes de vedettariat, etc. Mais enfin, l'ombre portée de tout ça se reflète sur le théâtre.
Tout à fait, c'est comme si, effectivement, on revenait à la convention théâtrale sous sa forme la plus rigoureuse, ce qui prouve bien qu'on est dans un impensé culturel ou un inconscient culturel qui se reporte d'ailleurs sur d'autres aspects, puisque à l'absence de diversité sur le plateau correspond une absence de diversité dans les équipes techniques ou dans les salles. Ouais. Puisqu'évidemment, à partir du moment où on joue un répertoire patrimonial sous sa forme la plus traditionnelle, on peut pas demander à un certain nombre de populations peu familiarisées avec cette forme d'expression de venir se reconnaître, sinon s'identifier, ou en tout cas trouver un intérêt, se sentir concerné, si vous voulez, par ces éléments de représentation. Donc, à mon avis, les deux questions sont mêlées. La question plutôt sociologique de la diversité dans les personnels sollicités pour le théâtre et la diversité dans la représentation de l'altérité. On a en France aujourd'hui un très net problème sur la représentation de l'altérité, qui trouve différentes traductions politiques d'ailleurs, mais en tout cas qui fait du théâtre un média a priori plutôt progressiste, plutôt attaché aux valeurs humanistes, mais qui néanmoins reproduit malgré lui un certain nombre de stéréotypes. Il y a une belle expression de David Bobet, qui est le directeur du CDN de Rouen, qui parle de racisme par omission. Il n'y a pas de racisme délibéré. Le milieu du théâtre est un milieu plutôt à gauche, plutôt progressiste, plutôt non raciste, mais qui finalement reproduit...
Ce qui rend les choses d'ailleurs encore plus plus mordantes, d'une certaine façon.
Absolument, parce que non visible et pas du tout ancré dans un discours de rejet ou de que l'on pourrait combattre, en fait. Là,
alors, qu'est-ce que vous en pensez, Marielle Poirson? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a du mal à oublier, par exemple, disons la couleur de peau d'un acteur quand il est sur scène? Quelqu'un veut monter, je sais pas moi, les fausses confidences, ou bien même une comédie de la biche, très marquée, fin 19e siècle, théâtre bourgeois, etc., qui a été écrit évidemment pour des personnages blancs et des comédiens blancs à l'époque. Si on en met sur scène qui sont pas blancs, est-ce qu'on met longtemps à l'oublier, ou bien est-ce qu'au bout de quelques secondes, ça passe? Je vous dis ça parce que il se trouve que je vais souvent au concert pour écouter pas de la musique classique. Hein. La musique classique, il y a pas un noir dans l'orchestre. C'est un problème monstrueux. Mais disons pour la musique improvisée, pour le jazz, etc. Il y a des mélanges qui fait que c'est vrai. C'est peut-être parce que j'y vais souvent, mais la question, me semble-t-il, ne se pose pas. Je veux dire, on y fait même, on fait pas attention. On voit un coin tête, il y a un maghrébin, deux noirs, deux blancs. On me demande après, il y avait combien de blancs dans l'orchestre? Je dis, je sais pas, j'ai pas fait attention. Bon, c'est passé dans les mœurs. Au théâtre, c'est pas pareil.
Tout à fait. Alors, en fait, au théâtre, ça n'est plus pareil. C'est-à-dire qu'il y a une époque, dans les années 70, où Peter Brook pouvait jouer Hamlet avec des comédiens africains sans que ça pose le moindre problème pour personne, et même en faisant partie, finalement, d'une affirmation qui était d'abord une affirmation esthétique avant que d'être politique.
Brook a été quand même un des premiers à imposer ça. Brook, parce qu'il avait la stature pour ça, il était reconnu.
Oui, Brook a été un des premiers, mais il n'était pas le seul. La troupe du Théâtre du Soleil ne fait que ça. On parle aujourd'hui de théâtre de migrants. La troupe du Soleil fait du théâtre de migrants depuis 40 ans. Coltès, quand il écrit Le Retour au désert, précise dans ses notes liminaires qu'il faut que le rôle-titre soit interprété par un comédien algérien. Donc il y a une époque où les artistes étaient fortement mobilisés sur la reconnaissance.
Ça, c'est autre chose. Coltès dit il faut que. Voilà. Il dit pas vous avez le choix. Il dit pas vous faites comme vous voulez. Il dit il faut que. Ça a été peut-être aussi l'attitude de Jean Genet, d'une certaine façon.
Absolument. Il y a eu un moment d'affirmation où cette question passait, selon un certain nombre d'artistes militants, par une logique de contrainte, en fait, et d'imposition. Aujourd'hui, à la fois, on n'en est plus là, et en même temps, on est bien en deçà de cette exigence-là, puisqu'effectivement, le grand sujet, et c'est un des problèmes soulevés par le numéro, c'est pas de savoir si un comédien algérien peut faire le rôle de l'Algérien dans Coltès, mais au contraire, s'il peut s'emparer des, entre guillemets, grands rôles du répertoire. Ce qu'a fait quelqu'un comme Marcel Bozonnet à la Comédie Française au début du 21e siècle en faisant jouer Tartuffe par le premier comédien noir de la troupe du Français, troupe permanente du Français. Donc là, on était dans la volonté de montrer justement que n'importe quel comédien pouvait être porteur de n'importe quelle histoire.
Il faut pas commencer n'importe où. C'est très intéressant ce que vous dites justement. Il a pris Tartuffe et ensuite le comédien africain, il a joué Tartuffe. Il a pas joué le deuxième rôle, ou le troisième, où justement on pourrait se dire, tiens, pourquoi pas, etc. C'était affirmé de façon centrale, et ça posait le problème. Le jour où ça en posera beaucoup moins, c'est le jour justement où on verra des seconds couteaux être aussi bien rouge, jaune ou blanc ou noir.
Oui, absolument. Le problème, c'est effectivement de rendre la couleur indiscernable, en fait, en réalité, esthétiquement parlant. C'est-à-dire pas de la nier, pas de faire comme si elle n'existait pas, mais de faire en sorte que tout acteur soit interchangeable et que personne, que les rôles n'appartiennent à personne. On a fonctionné pendant très longtemps dans le théâtre sur ce qu'on appelait le système des emplois. C'est-à-dire que chaque comédien était recruté dans des troupes qui étaient à l'époque principalement.
Il y a la duègne, il y a la jeune fille, il y a le don Juan,
La grande amoureuse, la grande coquette, le jeune premier. Donc à ce moment-là, si vous voulez, on faisait carrière en fonction d'un certain nombre de caractéristiques physiques et surtout vocaliques.
Qui pouvaient changer avec l'âge, d'ailleurs.
Qui changeaient avec l'âge. On jouait les jeunes premiers au 18e siècle jusqu'à 80 ans. Hein, c'est arrivé. Baron a joué les jeunes premiers jusqu'à 80 ans. Donc on voit bien que c'est une époque où la convention théâtrale faisait que le personnage était complètement déconnecté des caractéristiques apparentes du comédien qu'il servait. Et une des hypothèses que je défends dans le numéro, c'est qu'aujourd'hui, on est revenu revenu à un système des emplois, les emplois ayant été supprimés en 1902, mais de façon insidieuse, si on peut dire, de façon non délibérée. Si vous écoutez la plupart des artistes qui témoignent dans ce numéro ou sur le site internet sur lequel on a mis beaucoup de témoignages également, vous constatez que dans les castings, donc effectivement au cinéma également, au théâtre, ils sont en permanence confrontés à des distributions typées. Et ils sont sommés, même quand ils sont nés en France, sans aucune caractéristique, en particulier d'accent ou de voix typée, on leur demande de surjouer, si vous voulez, le rôle ou le personnage pour lequel ils sont recrutés. Donc on est très enfermé dans ce retour en force implicite du système des emplois aujourd'hui.
Martial Poirson, si on continue à se demander quelle est la diversité culturelle présente sur les scènes, vous mettez très en avant le théâtre, bien sûr, puisque la revue c'est alternative théâtrale, mais vous insistez sur le théâtre public, comme si le théâtre privé avait une problématique différente. Et vous mettez en avant aussi le fait tout à fait évident que dans d'autres disciplines, notamment le sport, le problème ne se pose pas, ou en tout cas se pose différemment, et que les... disons minorité visible, eh ben c'est des vedettes, voilà.
Oui, le théâtre public a une responsabilité dans cette histoire puisqu'il est porteur d'un rapport humaniste à la culture et donc il a par vocation en quelque sorte et pour mission, d'ailleurs c'est exprimé en tant que tel à l'intérieur des théâtres publics, de promouvoir la diversité des esthétiques.
Mais le théâtre public c'est quand même un concept très français. Alors la revue est franco-belge, je sais pas comment ça se passe en Belgique, pas très bien, mais je sais que dans d'autres pays européens, ne serait-ce que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, le système des subventions, l'histoire des subventions a été extrêmement différente et que la notion de théâtre public n'aurait absolument pas le même écho là-bas que ce qu'elle peut avoir en France, où on a eu depuis les années 70, plus encore depuis l'époque Lang peut-être, toute une série de maisons de la culture, de metteurs en scène qui montaient compulsivement du Brecht, avec une histoire quand même du théâtre de gauche qui a marqué deux générations.
Oui, alors oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas d'équivalent au théâtre public français dans le reste de l'Europe, mais à travers théâtre public on renvoie au théâtre institutionnel. Il existe des institutions théâtrales, d'ailleurs très florissantes en Allemagne et en Angleterre. Le vrai point de différence, c'est que l'Angleterre et l'Allemagne sont plutôt centrés sur la notion de troupe. Et en France, le système de l'intermittence fait que finalement chaque projet réunit des individualités données pour un projet donné qui n'est pas forcément amené à donner un droit de suite. Donc si vous voulez, cette atomisation des projets artistiques en France fait que cette question de la diversité se pose de façon moins organique que dans certains théâtres allemands où en gros, sur le modèle exceptionnel chez nous de la Comédie-Française, on a un lieu, une direction artistique et une équipe permanente de comédiens qui sont attachés au projet.
On dirait la règle
des
trois unités quand on vous entend.
Oui, un peu. Donc, si vous voulez, cette question, elle peut se régler de façon beaucoup plus simple dans des pays où on a une certaine stabilité des équipes en place et où donc on peut poser de façon structurelle la question de la diversité. Vous évoquiez quelque chose d'important, c'est pourquoi est-ce que le théâtre privé, qui est plutôt bourgeois, qui est plutôt centré sur des valeurs en partie réactionnaires, a réussi là où le théâtre public, qui s'affiche comme un théâtre progressiste et de gauche, a échoué. Bah parce qu'à mon avis, le théâtre privé aujourd'hui est porteur de certaines valeurs de... Enfin, la question de la diversité se pose.
Il y a des choses qui marchent plus, parce que peut-être on caresse le public dans le sens du poil aussi. Mais enfin, il y a un certain théâtre privé qui marche, en particulier le théâtre des humoristes, parce que ça plaît et qu'on y va, parce qu'on rigole.
Le théâtre des humoristes est centré sur la connivence avec le public. Ouais. Et donc, il y a effectivement toute une promotion de jeunes artistes issus de la diversité, avec notamment des machines à promotion comme le Jamel Comedy Club, qui a lancé toute une génération d'humoristes africains et nord-africains, mais qui pratique un rire qui reste, à mes yeux, un rire plutôt communautaire. Donc, c'est un rire de connivence avec une population qui partage les mêmes codes, qui peut rire éventuellement d'elle-même, qui principalement rit de la question des préjugés raciaux, voire des préjugés sexistes, enfin des logiques de discrimination, mais qui est difficilement transposable dans un théâtre qui se veut divers, y compris dans ses publics. C'est-à-dire que la salle d'un théâtre privé est à la limite, malgré tout ce qu'on a pu dire du théâtre public, moins diverse que celle de n'importe quel théâtre public, aussi homogène qu'elle puisse être, en fait. Oui. Hein, donc on est quand même dans ce paradoxe.
Eh bien, écoutez, Martial Poirson, merci infiniment d'avoir participé à cette danse des mots et de nous avoir éclairé sur tous ces problèmes extrêmement difficiles. Bien entendu, je renvoie au numéro de cette revue. Ça s'appelle « Quelle diversité culturelle sur les scènes européennes ?» C'est la revue alternative théâtrale dont ce numéro a été co-dirigé par Sylvie Martin-Lamani, qui est l'une des directrices de cette revue, et vous-même, Martial Poirson. Merci encore d'avoir été dans cette danse des mots qui vous a été proposée par le réseau Canopé et par RFI. Valentine Brasselet, Marjorie Bertin, Lucie